On va citer quelques sources. Maïmonide, dans le premier chapitre des lois sur la avodah zarah, l'idolâtrie, explique comment l'idolâtrie est arrivée sur terre. Ça, mais en passant, c'est intéressant. Parce qu'il faut faire quand même croire dans un morceau de bois. Alors, il dit que au début, donc, il y avait la connaissance du Dieu unique. Premier homme, génération d'après, Shem, Chet. Et après, la troisième génération, c'est Enosh. Enosh, Az Uchal Likro Beshem Hashem. Alors, on a commencé à Uchal Shon Chulin, on a commencé à appeler des choses profanes au nom de Dieu. La voie d'Azara l'idolâtrie a commencé à donc, trois générations après, la troisième génération après le premier homme. Et il est évident que à cette génération-là, on connaissait encore le Dieu unique. Simplement, quelle était l'erreur des idolâtres? Ils ont dit comme ça. Ils ont dit, Dieu, il est immense, il est absolu, il est... Et sur terre, il n'agit pas directement, il utilise des... On va appeler cela des ministres. Il utilise cela des moyens. Ce qui est vrai. La mystique juive, le Zohar, on sait toujours comment ça fonctionne, mais même dans la Gemara, on parle d'influence astrologique. On dit ça tous les matins dans les Tehillim. Monet, Mispar Kochavim, Lechulam, Shemotikra. Dieu donne un nombre aux étoiles et tous ont un nom. Alors, c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont un but, elles ont une finalité, elles ont une fonction. Pas une planète là-bas, NGC 245, qui ne sert à rien. C'est pas possible. Rien dans ce monde ne sert à rien, si c'est créé. Donc elle est créée, elle a un rôle. Et vu que l'humanité, c'est le but de la création, toute la création, donc il est évident que ces étoiles-là ont un impact. Et Dieu agit par leur biais. Ce sont les ministres. Il y a des anges, il y a des forces spirituelles par lesquelles Dieu agit sur terre. Il est logique, disent les idolâtres à l'époque, que si tu as un roi qui a des ministres, que j'honore les ministres du roi. C'est tout à fait logique. Donc c'est normal, le ministre vient ici, je donne à manger, je l'honore, je fais des courbettes. Ben, nous aussi, au ministre de Dieu, on va faire des sacrifices, on va faire des courbettes, on va prier. Peu à peu, ils ont oublié qu'il y avait au-dessus le Dieu unique. Ils ont commencé à servir que les ministres. Troisième étape, ils ont commencé à inventer des messages comme quoi le ministre aurait dit cela et cela. Vient un prêtre idolâtre qui dit ce ministre-là s'est dévoilé, cette force, un tel, ce Dieu, cela s'est dévoilé, et m'a dit... De faire comme ci et comme ça et comme ça, ils ont commencé à créer des temples, etc. pour tous ces ministres-là, et ils ont complètement oublié, toute l'humanité a oublié le Dieu unique. Quand on dit toute l'humanité, c'est étonnant. Il faudrait dire que, à part quelques, vraiment, quand on parle de quelques, c'est 2, 3, 4 personnes au maximum, c'était complètement oublié.
Quel niveau de Kadosh ils n'avaient pas un grand niveau de connaissance Comment
s'est
passé?
Il y a eu. Oui, donc on arrive. Abraham Avinu, il est 20 générations après le premier homme. À quel âge on commence à avoir des enfants? D'ailleurs, à l'époque, on voit commencer à avoir des enfants un peu à l'âge d'un siècle et plus. Donc, un, deux, trois siècles, d'accord? Prenons un siècle par génération, ça fait déjà 2000 ans, c'est juste exactement. Bon. Donc, Abraham Avinu, il est né en 1948. 1948, date de naissance de. En l'an 2000, il avait 52 ans. Et Abraham Avinu, comme dit Maïmonide, donc au premier chapitre des lois d'idolâtrie, il vit parmi les idolâtres. Son père, dit le Midrash, était un vendeur d'idoles. Et parmi ces idolâtres, Tipchim, idiot, comme ça dit le Maïmonide. Et il pose une question existentielle de base, qui dit d'où, comment je peux maintenant aller et servir une pierre. Alors les idolâtres savent que c'est... En fait, c'est pas la pierre. La pierre est une représentation d'une force divine. Mais d'où vient cette force divine? S'il y a une force, il y a quelqu'un qui a géré cette force. Alors il y a un débat connu dans le Midrash, qui est allé voir il a cassé le Midrash, il raconte comme ça que Terach, taré en français. Taré, il avait un magasin d'idoles, il était allé faire une course, et il a dit à son fils, tiens, s'il te plaît, garde-moi le magasin d'idoles. Et Taré va faire ses courses. Abraham, il y a une dame qui vient avec une offrande à donner à une des idoles. Elle lui dit, ça va, les idoles, donner une pizza, maintenant une offrande à une idole, quoi qu'elle va la manger. Elle est complètement horrifiée, comme on se parlait comme ça, sacrilège sur les idoles. Et lui, il s'énerve. Il prend une hache et il casse toutes les idoles. À la fin, il prend la hache, il met dans l'idole la plus grande. Et il attend que son père revienne. Son père revient, il voit toute sa fortune, tout son magasin d'idoles qui est complètement ratatiné. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, papa, je sais pas, il y a une dame qui venait de faire une pizza en offrande aux idoles. Et le plus grand, il s'est énervé, il a pris une hache. Ils sont bagarrés qu'il prenait la pizza, tu vois, une bonne pizza aux anchois. Et la grande idole s'est énervée, elle a pris la hache, elle a cassé toutes les idoles pour qu'elle ait la pizza pour elle tout seule. Elle avait mis la pizza juste devant elle, comme ça. Ah, taré, il dit, ah, moi tu me l'as fait, ça va, je connais l'histoire. Et
qu'est-ce qu'il y a de mal pour un goy de se donner à la fille? C'est pas interdit.
On parle pas de goy ou juif, on a avancé là. Maintenant, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? C'est tout. Il y a un dieu, on doit servir, pas aller. Alors, où est l'erreur? Où est l'erreur des idolâtres? L'erreur, elle est que le ministre, c'est un tuyau. C'est un tuyau par lequel, un canal par lequel Dieu amène le flux. Quelqu'un maintenant me met de l'eau dans le tuyau. Et hop, je vois que le tuyau sort de l'eau. Je remercie le tuyau. Merci tuyau. Tu sais rien. C'est un tuyau. Merci toi qui as mis de l'eau dans le tuyau. Le ministre n'a aucune marge d'action, aucun libre arbitre, il n'est rien. Le ministre n'est qu'un tuyau, on n'a pas l'honoré du tout. C'est ce que dit Abraham Avinu, ce que dit la Torah.
Mais Hachem, il a voulu se cacher volontairement aux yeux des peuples et leur donner des ministres.
Il y a libre arbitre. Dieu est absolu, nous sommes finis. Et il est inhérent au fini qu'il ne peut pas avoir l'absolu. Donc Dieu se cache pour laisser libre arbitre et l'humanité est tombée dans le panneau, est devenue idolâtre. Je continue sur Abraham Avinu.
Quelqu'un vous donne un chèque, vous ne lui dites pas merci de la seconde retenement.
Mais lui, son premier libre arbitre m'a donné un chèque. Je ne dis pas merci au chèque. Le chèque, il est le tuyau par lequel je vais avoir l'argent. Le chèque, c'est rien. D'accord, je vais à la banque et on me donne, contre le chèque, on me donne maintenant de l'argent. Ou avec le chèque, j'achète maintenant une maison. Alors je dis merci chèque, grâce à toi, j'ai la maison.
Mais de la même façon, quand on dit merci à la personne, c'est pas lui, puisque c'est Dieu qui nous l'a envoyé.
Non. La personne, son libre arbitre, te le donne. Donc tu dois le remercier. Tu peux honorer, tu peux remercier une chose qui a du libre arbitre, qui a une essence en lui-même. Or, tous ces ministres-là n'ont pas l'essence en eux-mêmes. Ils ne sont que par le bon vouloir de Dieu qui les dirige à 100%. C'est du robot, c'est rien. Tu ne dis pas merci à un robot. Quelqu'un envoie autant quelque chose avec un robot, une pizza avec un robot. Envoie ta pizza, t'as un robot qui vient, qui t'amène la pizza. Tu dis merci. Rien, c'est lui qui a télécommande. Tu dis merci pour le. Très bon, voilà. Tov. Terach, donc.
Alors, est-ce qu'on va à la préfecture ou faire du papier, on va dire merci, alors c'est leur boulot.
Mais il peut le faire gentiment ou pas gentiment. Et que ça, il peut te dire revenez demain. Il peut te dire revenez demain, j'ai pas le temps.
Rendre un magasin, c'est un mauvais exemple.
Bon, laisse tomber, c'est pas le temps, pas le mauvais exemple, on avance. Ok, c'est clair. Donc, Abraham Avinu, il est dénoncé par Taré, son père, c'est le roi Nimrod. Nimrod, c'est lui qui va faire la tour de Babylone, tour de Babel. Nimrod a du mot Mered. Mered, c'est révolté. C'est lui qui, d'après Chazal, il connaissait Dieu et s'était révolté contre lui. Il voulait aller en guerre. Et commence un débat. Il y a le roi, il y a le dieu de la pluie. Abraham a dit, ok, ce Dieu-là, mais ce Dieu, s'il n'y a pas un, s'il n'y a pas un Dieu des nuages, il n'y a pas de pluie. Donc remercions maintenant le Dieu des nuages. Ok, on l'accepte, on va remercier le Dieu des nuages. Dit, ok, mais les nuages, s'il n'y a pas maintenant le vent qui les pousse, alors, il n'y a rien du tout. Donc remercions le Dieu du vent. Le Dieu du vent, alors ok, le vent maintenant, qui a provoqué le Dieu du vent? Qui a provoqué le Dieu du vent? D'où il fait le vent? Eh bien, il faut qu'il y ait une différence de pression atmosphérique. D'accord? Qui l'a créé? Ça veut dire, de façon plus philosophique moderne, on dirait, dis n'importe quel phénomène que tu vois dans la nature. Comment il a lieu? Alors on va t'expliquer. Ça a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Mais à la fin, il te faut toujours l'impulsion première. D'où vient l'impulsion première? Ce que Maïmonide dit dans le premier chapitre des bases de la Torah. Si on voit que le Galgal, c'est donc le système cosmique, il tourne, il faut bien qu'il y ait une force qui le fasse tourner. Tout bête. Et vu qu'on voit qu'il tourne une force éternelle, parce qu'il tourne de façon éternelle, on voit que tout tourne, les électrons, les neutrons, les protons, tout ce que tu veux, tout tourne d'une façon éternelle. Nous, on sait qu'à l'ancien mille, tout s'arrête. Et ça, on l'a reçu en Kabbalah, en tradition de Chazal. Mais si ce n'était cela, d'après ce que nos yeux voient, c'est un mouvement qui est éternel. Rien ne se perd. L'énergie, elle se transforme, etc. Mais rien ne se perd. Donc il faut qu'il y ait une impulsion d'énergie qu'elle vienne de quelque part. Il y a une base à tout cela. Forcément, il y a une base qui est éternelle. Éternelle. Et pour être une entité éternelle, forcément, c'est une entité qui n'a pas de limite, qui n'a pas de corps. Si tu as un corps, tu as une limite. Donc on parle d'une. Et elle est une, parce que si elle n'est pas une, alors elle a des limites, parce que où elle s'arrête, où commence, où il y a un 2, ça s'arrête le 1. Donc forcément maintenant, tu as une chose qui est illimitée, qui n'a pas de corps, qui est éternelle et qui est une. Voilà, c'est tout. Nous on l'appelle, appelle-la comme tu veux. Quand Rabban l'appelle le Kivyachol, le en quelque sorte. D'accord? C'est lui qui est la source de tout. Et c'est lui que nous servons.
On admet qu'on peut rentrer l'infini dans le fini.
On admet que l'infini, il a une incidence dans le fini, absolument. Comment il fait cela? C'est un des grands secrets de la mystique juive, parce que c'est une chose tout à fait anormale, comment l'infini rentre dans le fini. Mais il le fait.
Là, le raisonnement que vous avez dit, c'est très logique. Comment est-ce que tout le monde a pu tomber dans le panneau sauf Abraham?
Alors, Maïmonide dit que Abraham Avinu, il a cherché, il a trouvé. De là, nous disons que n'importe quel être humain, s'il cherche, il trouve. Maintenant, nous devons dire que c'était une neshama spéciale. C'est vrai que c'est une neshama spéciale. Mais, c'est quoi une neshama? Une neshama, c'est-à-dire c'est un potentiel. Il y a un potentiel. Quelqu'un peut rayer son potentiel. Peut-être beaucoup d'autres neshamas spéciales. Et là, j'ai ce que dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Il dit que Dieu a mis dans la création, il a laissé une période qui s'appelle la période des racines. Et après la période des racines, la période des fruits sortant des racines. La racine est toujours plus grande. Elle a en potentiel tous les fruits qu'il y aura. Et tous les fruits qui vont sortir de la racine sont de même type que la racine. L'époque des racines devait être sur 2000 ans. Dieu a laissé à toute l'humanité libre choix. Voilà, je vous donne maintenant une mission, la vérité. Il y a le mensonge. La vérité, elle grandit. Elle grandit la personne. Elle la construit. Mais elle nécessite un effort. Et elle paye un peu plus tard. Il faut attendre une construction. Le panneau, il dit, il paye tout de suite, ça, c'est facile, tu as des forces négatives, même d'idolâtre ou de sorcellerie, de choses, tu agis tout de suite, tu as des résultats, après il y a une facture, mais en tout cas, ça paye tout de suite. Choisissez, ou le vrai, mais il faut construire, ou le faux, et ça va tout seul, mais c'est faux. Donc à la fin, ça amène un grand flop. Et toute l'humanité en gros, a été d'échec en échec. Premier échec, c'était... Cette génération de Enoch va commencer à voir l'idolâtrie, et d'après les sources de Chazal, un tiers du monde a été englouti. Mais pas au courant, c'est pas le déluge. C'était avant le déluge, c'est l'océan hein, englouti, c'est le réchauffement de la planète, d'accord. Mais je crois quand même, dans, au niveau préhistorique, on parle que là, tant les mers recouvrent, parce qu'on retrouve dans les montagnes des coquillages, des choses comme ça, d'accord. Les airs glaciaires. Ok, alors chez nous, la période d'Enoch, qu'il y avait, donc l'océan a recouvert un tiers de l'humanité. Après, il y a eu le déluge. Après, il y a eu la tour de Babel. Après, il y a eu Sodome et Gomorre. Et qui sont les cancres qui ont raté toujours tous ces échecs-là, tous ceux qui étaient les cancres qui ont qui ont effectué ces échecs-là, c'est nous, les âmes du peuple juif, qui pour cela sont partis 400 ans d'esclavage en terre d'Égypte, pour réparer tout cela. Comme dit le Rav Kida, Rida dit comme ça, il y a un verset, « Hotseti etrem mitachat silot mitzrayim »« Hotseti etrem » Je vous ai sorti, « mitachat silot mitzrayim » de sous les silot, l'esclavage d'Égypte. Alors, le Rav Kida, il dit comme ça. Il dit, ils sont venus réparer ces quatre générations. Hotseti, c'est Haflaga. Haflaga, c'est la tour de Babel. Etrem, c'est Enosh. Ce sont des noces où ils ont trouvé la Vozara. Mitachat, même comme Maboul. Siglot, comme Sodome. Quatre générations. En signe dans la Torah que Dieu veut nous sortir maintenant, c'était la réparation de ces quatre générations où on a fait les cancres. Parce que les âmes juives étaient là-bas. C'est quoi les âmes juives? Pardon, on va partir dans des choses. Bon, à l'origine, avec le premier homme et sa femme. Le premier homme aurait dû tenir le coup jusqu'à Shabbat sans faire de bêtises. Et là, l'humanité arrivait à son achèvement, à sa réalisation. On rentrait dans l'union avec Dieu, le paradis, plus que le paradis, on rentrait dans la divinité. Il était au paradis, on montait encore plus haut. Le premier homme a échoué. Dès lors, qu'est-ce qui se passe? Toutes les étincelles de sainteté, toutes les parties d'âme. L'homme, c'est un homme de lumière. Au paradis, l'homme était en lumière. Il avait une qui est recouvert d'une peau de lumière, pas de peau. Or, et lorsqu'il a péché, alors Dieu s'est marqué qu'il lui a cousu kutnot or. Des habits de or. Or, c'est peau, avec ein. Or, c'est peau. Or, c'est lumière. Alors, les petits-enfants leur racontent que les ongles, c'est le reste. Le premier homme était tout recouvert d'ongles. Ce n'est pas très joli, d'accord, mais c'est une erreur. C'est quoi, ongle? Ongle, c'est tipouï or. Tiporen. Tiporen, c'est l'ongle. C'est tif, recouvert or. Tif or. Tiforen. D'accord? Tipornaim. C'est bien, c'est ça, c'est le. Comme ça dit le. L'Hachem Shvo Barlama, un des grands kabbalistes du siècle dernier, dévoile cela, que, donc, c'est vrai que ce qui nous reste maintenant de l'habit du premier homme, c'est les ongles. C'est pas qu'il était fait d'ongles, il était fait de lumière. Et la lumière, elle est éternelle, l'homme était éternel, et il est devenu mortel. Ils sont descendus dans ce bas monde, avec une chair, avec de la peau. Et le tikkun, la réparation de cette descente, c'est quand on remonte, quand la peau elle meurt, c'est le jour de la mort. Le jour de la mort, c'est la réparation du péché originel, en tout cas une étape dans cette réparation. Alors qu'est-ce qui se passe? Toutes les abîmes du premier homme, elles tombent. Elles tombent très bas, et ce sont des étincelles de lumière, c'est-à-dire de vie, d'énergie, de l'énergie. Cette énergie, maintenant, elle arrive dans ce monde. Et toutes les âmes qui venaient recevaient, chaque homme qui naissait, il avait en lui une petite partie de cette énergie divine du premier homme, une partie des âmes du premier homme. Et lorsque l'humanité va de déchéance en déchéance, d'échec en échec, alors on descend encore, et donc toute la sainteté, toutes ces âmes qui sont l'énergie sainte, elle s'éparpille dans le monde entier, elle va partout. Il y a partout des étincelles de sainteté. Et le job de l'humanité, jusqu'à l'époque messianique, on répare cela, ou jusqu'à l'époque du don de la Torah, ça a été réparé, après il y a eu le veau d'or, donc on est retombé, mais s'il n'y a pas eu le veau d'or, on serait arrivé à cet achèvement, c'est à faire en sorte de récolter, de ramener toutes ces étincelles de sainteté à leur source, à la divinité. Ça se fait ou par l'étude de Torah, ou par la souffrance, ou par les mitzvot de Torah, ou par la souffrance, ou par le bon moyen, ou par le mauvais moyen. Mais tous les moyens sont bons pour revenir à la divinité, par homme à la divinité. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire les étincelles de sainteté, sont allées par l'humanité, ont été écrasées, descendues très très bas. Il fallait qu'elles remontent par la mauvaise façon. La bonne façon, ils n'ont pas réussi. Ça aurait été d'aller, de suivre, que l'humanité entière aille dans le bon chemin. Dieu avait après 2000 ans que l'humanité s'est terminée, ça ne va pas. Toutes les racines échouent. Une seule racine a réussi, Abraham Avinu. Abraham Avinu. Dieu décide, ok, alors maintenant de lui, je fais le tikkun aura lieu par lui. C'est l'essentiel du tikkun. On aura 607 mitzvot, le reste de l'humanité auront 7. On va faire un programme plus light. Mais l'essentiel, toutes les étincelles de sainteté devront, qui sont très très bas, c'est le peuple d'Israël qui devra ramener. Il sera le véhicule de la Shrina, le véhicule de la présence divine. On dit que la présence divine, elle est en exil. Oui, en exil, elle est très très bas. Et nous sommes le chariot, nous sommes le véhicule de cette présence divine. C'est pour ça que nous souffrons. C'est marqué, et moi, notre Rebbe Sarah, Dieu dit, je suis avec le peuple d'Israël en Sarah, en souffrance. Agmara dit, lorsqu'un juif il souffre, alors la Shrina elle souffre. C'est parce que celui qui donne une gifle à un juif, il donne une gifle à la joue de la Shrina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes les véhicules de ces étincelles de sainteté. Abraham Avinu, par sa grandeur d'âme, qu'il a réalisé par ses propres choix de son libre arbitre, est celui qui a dit, ok, je vois que l'humanité entière se trompe, moi j'annonce maintenant le monothéisme, le vrai Dieu. Alors,
j'y arrive. Se prendre pour la chemin, c'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mauvais. Dans le sens où...
C'est pas bien du tout.
Ah d'accord, mais...
C'est un tikkun.
Un tikkun, ça veut dire...
Ok, mais pourquoi faire un tikkun avec la chimiothérapie?
Elle sent pas la douleur...
Si, bien sûr. Alors, maintenant, quelle était la Torah d'Abraham Avinu? Chazal disent qu'Abraham Avinu faisait toute la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faisait exactement comme nous, c'est pas forcé. Parce que j'ai expliqué très souvent que la Torah, on en parle, c'est la même Torah. La Torah. On dit que Dieu lui la Torah. On dit que les anges lui la Torah. On dit qu'Abraham Avinu a lu la Torah. On dit que le peuple d'Israël a lu la Torah. À l'époque aussi, il y a aussi la Torah. Et il est certain que toutes ces Torahs sont différentes les unes des autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors on dit simplement que c'est la même Torah dans une configuration. L'exemple que je donne très, très souvent, que tout le monde connaît là par cœur, tu prends de l'eau. Tu as de l'eau, c'est H2O. N'est-ce pas, Nathan? Deux molécules d'hydrogène pour une d'oxygène. Mais tu peux l'avoir en configuration multiple. Solide en cristaux de glace, liquide en eau, vapeur en gaz, et qu'est-ce que je sais moi, en magma, en je sais pas. Voilà, du plasma. De même, donc tu auras la Torah que Dieu étudie, et il est marqué dans la Gemara de Brachot que Dieu met les tefilines. Alors même un enfant comprend que ça va, il n'y a pas de tefilin en peau noire, le bon Dieu. Moi, qu'est-ce qui est marqué dans le film de Dieu? C'est marqué Mika Mecha ki Israël Voyechak Baharetz. Qui est comme ton peuple d'Israël, un peuple un sur terre. On va faire un cours entier sur les tefilines, d'accord? Il y a une corrélation, mais ce n'est pas forcément exactement la même chose. Mais il y a les tefilines de Dieu. Il y a les tefilines de Abraham Avinu, c'est évident. J'ai vu une fois, il y a très longtemps, je ne sais plus où, qui, quoi, comment, que Yaakov Avinu, c'est la mitzvah de tefilines, comment, lorsqu'il a. Il a pelé les branches pour que ces troupeaux naissent tachetés. S'il faisait, on faisait la mitzvah de tefilin. Où est le rapport? J'ignore. Mais ça veut dire donc qu'il y avait une technique qui a été... D'où Abraham il sait cela? Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y avait quand même 2-3 personnes dans le monde qui avaient reçu l'enseignement qui venait du premier homme. Le premier homme, quand il était au paradis, c'est marqué. Dieu lui a dit, tu vas maintenant t'occuper du jardin... Jardin d'Éden, les Ovda ou les Chomra. Les Ovda sont occupés, les Chomra la garder. Chazal ont dit occuper les misotes positives, la garder les misotes négatives. Alors de nouveau, les misotes vraiment comme nous on avait, c'était un habit de lumière. Il était dans le paradis, dans une dimension de divinité énorme. Alors c'est pas exactement la même chose. C'est H2O dans une formule gazeuse. Mais il avait 613 misotes. Le monde est bâti sur 613. Nous avons 613 organes et veines. La divinité est bâtie sur 613. Toute la réalité, elle est basée là-dessus. Donc ça ne peut pas être autrement. La Torah signifie maintenant, dans la configuration où je suis, que ce soit au paradis, que je sois un ange, que je sois à l'époque pré-messianique ou après-messianique, ça fait une chose différente. On voit que maintenant, c'est la comme Bethilel depuis 2300 ans, depuis 2000 ans. À l'époque messianique, on est comme Beth Shammai. C'est quoi? La halakha, elle ne peut pas être une fois comme ci, une fois comme ça. Oui, elle peut être, parce que tout dépend de la configuration. C'est la même Torah, mais dans une configuration qui est différente. Alors je vais juste finir, ce que je veux dire, c'est que le premier homme, il a transmis. achète, il y a une transmission. Et ça passe après Noé, et Noé, Hachem, son fils, et à Eber, l'arrière petit-fils. Et on dit que Jacob et Noé étaient étudiés dans l'Eshiva de Hachem et Eber. Donc il y avait quelque chose. Ça peut vous dire que, comment dire, Rambam, il dit qu'Abraham avait nous, il est le seul, parmi les idiots. Ben, il était dans, là-bas, au Kassim, c'est près de Batsra, là-bas, en Iran aujourd'hui, parmi les idiots. D'accord, il gagnait parmi des gens qui étaient complètement idolâtres. Et lui, par sa conscience, il a réussi à découvrir. Mais il a dû rechercher, etc. Et il a dû avoir un contact, c'est évident. Avec Shem et Ever, cette Torah, elle s'est faite. Abraham avait nous, c'est pas qu'il est resté seul. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi par Dieu? Dieu l'appelait Oavi. Parce qu'il a ouvert le mouvement militantisme monothéiste. Il a fait, voilà, c'est pas comme on fait aujourd'hui, séminaire garçon-fille mélangé. Lui s'occupait des garçons, et sa femme Sarah s'occupait des femmes. Ils ont fait 40 000 balais de chouva. Qu'est-ce qui restait d'eux? Zéro. Zéro. On ne connaît pas la descendance des 40 000 balais de chouva. Mais néanmoins, ça c'est pour ceux qui sont, il y a des gens qui n'aiment pas, qui disent c'est pas bien, il faut faire ça de chouva. Au contraire, c'est bien, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, vas-y. Tu vois que Abraham Avinu, bien que... Pour finir, il n'y a aucun résultat de ces 40 000 balais de chouva, néanmoins, il était appelé Oavi, par que je vois beaucoup, mon amant.
Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, c'est que, de savoir qu'il a fait 40 000 balais de chouva? Qu'est-ce qu'on en tirait de ça?
Tu peux faire la même chose. Mais d'abord, étudier la Torah pendant 5 ans.
Ça a servi à rien.
Mais Rav, c'était.
Ça a servi, tu vois, quand on est descendant, quand tu dis, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Elokeinu, Elokei Abraham, premier. Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Pourquoi Abraham? Qu'est-ce qu'il a, Abraham? Alors, il a invité trois Arabes il y a 4000 ans. Pour ça, il est Abraham. Pourquoi Dieu dit, je l'aime? Il a fait 40 000 balais de chouva. Le Midrash dit, on va sur un autre sujet. Abraham s'est dit, moi je veux maintenant me sanctifier et devenir comme un ange. Et il dit, à quoi ça sert? Lui, il a des myriades d'anges. Alors, un myriade plus un, je vais aller maintenant dévoiler son nom sur terre. Et voilà. Il ouvre un restaurant, un resto U. Prix presque gratuit, le roi va le faire payer. Non, il faut payer à lui. Qu'est-ce qu'il faut payer à lui? Il dit merci. Comment merci? Tu ne connais pas? Il commence à lui faire comme tout un argumentaire sur Dieu existe. Et voilà. Il a été sur terre. Avant Abraham, il était appelé Elokei Hashamayim. Mais après, Abraham l'a appelé Elokei Hashamayim. Il va arrêter, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Oui.
Vous avez expliqué souvent, je crois qu'en fait, il a découvert Dieu en observant la nature, pas en allant chez Shem et Ever.
J'ai dit. Donc, lui, il a connu Dieu par son propre esprit, et j'imagine qu'il a connu beaucoup de techniques. Dieu s'est dévoilé à lui, Dieu lui parle. Donc, il y a eu une relation avec Dieu qui a fait que lui, il a connu la Torah comment elle allait, mais j'imagine qu'aussi, parallèlement, parce que d'après le texte, on voit bien qu'il y a eu une transmission aussi de la Torah. Il y a eu, certainement à un moment, il y a eu aussi une jonction entre les deux. Ils se sont connus, ils se sont dit, tiens, pensez-moi un peu de ce que tu as appris. Akitzadek, Melar Shalem, Akitzadek, le roi de Shalem, qui était Shem, d'après la tradition de Chazal. Donc il a rencontré. Cohen et Elion. Cohen, prêtre au Dieu. Elion, supérieur au Dieu. Donc certainement, ils se sont vus.
C'est bon?
Moi j'ai une question. Hachem a une Torah, il étudie une certaine Torah, Abraham a une Torah, Adam aussi une Torah, puis Abraham lui il continue à progresser, la révélation de la Torah se.
Dis-le comme je dis, j'ai la même Torah dans une autre configuration. On va que des gens entendent.
Ouais. Donc Abraham lui donne une autre configuration, il lui fait une avancée quelque part, et puis ça se transmet à l'Israël, et voilà. On arrive au Ham Israël, ouais. En Égypte.
Très bien.
Eux ils ont aussi une Torah.
Oui.
Moi, j'ai une question très précise. J'aimerais savoir quelle était la Torah des Bnei Israël 5 minutes avant de recevoir
la Torah. Torah très bien. Ça se passe comme ça. Avant Mabinou, il pratique une certaine Torah qu'il a reçue de Shem Ever. Et il est marqué dans les écrits de Chazal il y a 2000 ans déjà qu'en Égypte, vous avez des Megillotes. Des Megillotes, c'est des rouleaux dans lesquels était marquée la Torah. Et il le lisait le Shabbat, les moments de libre, tout qu'il y avait, d'accord. Il se consolait en lisant. Et il y avait certaines mitzvot qu'il devait déjà faire. Mais certainement pas toutes. Il se peut qu'ils avaient connaissance. Il se peut. De toute la Torah, telle qu'on l'avons aujourd'hui. Mais elle n'était pas obligatoire. Elle était en tant que technique de rapprochement de Dieu.
Et la suite de l'histoire n'était pas encore facile.
Non, je parle des lois de la Torah, je parle de 613 lois, d'accord? C'est vrai que c'était bien de ne pas porter du châtenais. C'est bien de ne pas mélanger le lait et la viande. Yaakov avait une roue, il s'est marié avec deux sœurs. La Torah interdit avec deux sœurs. Comment il a fait une chose pareille?
Alors, il a mélangé la viande pour les
anges. Pour les anges, ok. Ok. Même lui, peut-être. Ok, donc c'était au niveau de la technique. Ça, c'est un truc qui était peut-être pas bien à faire, mais c'est permis. Yaakov Avinu, il s'est marié avec deux sœurs. Lavan, pourquoi il a mis Léa avant Rachel? Parce qu'il savait que de Rachel devait sortir le peuple juif. Et il s'est dit, je mets Léa, parce qu'il n'y aura pas de peuple juif. C'est ce que nous disons au début de la Gada. Arami, Oved Avi. Arami, c'est Lavan, Arami, Oved Avi. Il a perdu mon père. Il voulait qu'il n'y ait pas le peuple juif. Comment? Comment il a fait? Il a donné la mauvaise sœur. Yaakov Avinu, dans ce cas force majeure, c'est ou ça ou pas Israël, c'est quand même avec la deuxième sœur, se disant que tout ça c'était malade qu'en terre d'Israël. Hors d'Israël, ça allait. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre terre d'Israël et pas Israël. Donc on doit dire que c'était une technique, une vérité qui était encore technique de rapprochement non obligatoire. Ça devient obligatoire quand? Alors, les choses qui se font par la Brit Mila, Dieu ordonne clairement. Abraham Avinu, ça devait le faire. Ils ne l'ont pas tous fait. On sait très bien qu'en Égypte, ils ne l'ont pas tous fait. Avodazara, idolâtrie, ne devait pas faire. Ça, c'est certain, ils le savaient. Maintenant, c'est marqué que les Lévites, si je me souviens bien, ils faisaient le Shabbat en Égypte. Mais le reste du peuple ne faisait pas le Shabbat. Quand on a reçu l'ordre du Shabbat, avant Matan Torah, à Mara, Mara, une distinction qu'il y a eu entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah au Mont Sinaï, on voit qu'à Mara, ils ont reçu par exemple le Shabbat. Et c'est encore dinim, les lois pécuniaires, monétaires. Donc c'est des choses qui seront dans le Torah après. Ils ont déjà été ordonnés. Viens, matin, Torah. Dieu dit, ok, maintenant c'est terminé. Ni technique, ni à peu près. Voilà. Boum.
C'est bien contraignant. C'est ça.
Contraignant. Contraignant et complet. C'est complet et clair.
C'est donné par transmission, mais pas donné. C'est ça que je veux dire, depuis le premier
homme
jusqu'à la fin,
ça a été
transmis.
Écoute, on parle de gens, d'Abraham, qui étaient des prophètes. Voilà, prophète, c'est-à-dire que Dieu lui dit. C'est un prophète vient et me dit maintenant, Dieu dit au prophète, il faut faire. C'est. Allez, transmission, on va dire. Transmission, mais une transmission, on va dire, de génération en génération, plus une transmission directe, divine.
Parce qu'il n'y a pas de jeu sinon. Si tu donnes le libre arbitre pour lui transmettre plus tard. Il y a sa part, quand Abraham il se rend compte de tout ça, qu'il quitte les peuples, qu'il quitte les pratiques, et qu'il seul se met à voir que Kadosh Baroukh Hou, c'est de lui qui veut tirer sur le jeu. Il n'y a pas libre arbitre, c'est rien. Après, il parle.
Il voit Kadosh Baroukh Hou parce que justement, il a fait ce choix de vouloir le voir. Mais tout ce qui vient après, c'est un roi Kadosh qui.
Il pas que voir Kadosh, il y a une transmission et voir Kadosh, les deux, il y a eu, non, avec l'objectif de dire non, il y a eu transmission divine, la transmission par savoir, voilà. Alors c'est pas en regardant les arbres, j'ai dit, maintenant, tiens, ce serait sympa maintenant pour le bon Dieu que je fasse une statue comme ça, en pelant les arbres. Non, il voyait des choses que nous ne voyons pas, c'est absolument certain. Mais qui en parle, Abraham Israël? Il leur a dit Shema Israël. Il a mis ça de dire Shema Israël. Yaakov Avinu, le premier qui a dit, c'est Yaakov Avinu. Il a dit Shema Israël à ses enfants le jour de son décès. Non, c'est eux qui lui ont répondu comme ça. Ils lui ont répondu Baruch Shem Kol Malchuto L'Olamed. Et là, eux aussi avant, lorsqu'il a rencontré Yosef. Il a dit Shema Israël. Donc c'est bien d'où Shema Israël? C'est quoi? Qui? Quoi? Comment? Donc il y a.
Il a une connaissance, c'est pour ça qu'il a écrit la Torah.
Après, dans la Torah, mon Dieu, c'est la Torah, ok. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui transmet. Moshe n'a pas écrit une seule chose par lui-même. Moi, je pense que c'est un prophète. C'est-à-dire, ce que Dieu lui dit, il marque. Il ne dit pas, il ne marque pas.
Il lui dit par l'intermédiaire aussi de la transmission.
Non.
C'est pas
un télégraphe. Plus Torah. Non, c'est plus Torah. Torah, quoi, dans son Mont Sinaï, c'est Moshe Rabbeinu qui. La Torah, ça a descendu son nom. Schlack, il a descendu. Et ce qui est là-haut, il a donné ici. Et c'est transmission directe de Dieu. Ni passé, ni rien, ni considération personnelle, ni éducative. Et
ça n'empêche pas qu'il raconte quand même l'histoire d'un peuple, donc il a connaissance.
Il ne la raconte pas, parce que lui raconte l'histoire, c'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire. Justement pas. C'est pas de l'histoire. La Torah, c'est pas de l'histoire. L'histoire, elle est là parce que c'est de la Torah. Donc c'est Dieu qui a transmis Bereshit Bara Elohim, et Noach, et Abraham, et Israël, et Jacob. Tout ça, il a reçu mon Sinaï. Il a reçu mon Sinaï. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu depuis le début de la création, dans la Torah. Le récit de la création jusqu'à Mahamad Har Sinaï, jusqu'à l'événement de la, du don de la Torah, mon Sinaï. C'est ce que reçoit ce paracha Yitro, d'accord, jusqu'à Yitro. Moshe Rabbeinu, ce qu'il reçoit au mont Sinaï, la Torah jusqu'au livre de Yitro. Après, durant 40 ans, il reçoit, de temps en temps, Dieu se dévoile à lui, voyons vers Hachem et Moshe les morts, Dieu dit à Moïse, la chose suivante, précise, le Ramban dit c'est quoi les morts, Rachid dit les morts, la chose suivante, de dire ça, Ramban dit non, les morts signifient précisément, c'est très 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 concise, précise. Et Moshe Rabbeinu écrit les 12 derniers versets de la Torah, Moshe Rabbeinu les écrit, et il raconte même sa propre mort. Mais c'est la Torah aussi. C'est Dieu a dit à Moshe, écrit. Il n'a pas inventé ça. C'est pas de l'histoire. Il fallait poser, quelqu'un m'a posé la question dernièrement, pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas les 400 ans en Égypte, comment ça s'est passé? C'est intéressant. Les pyramides, les trucs où ils étaient. C'est pas un bouquin d'histoire. Ah, pourquoi elle raconte l'histoire à Torah? Elle raconte l'histoire dans une mesure où ça a un impact toraïque. On te raconte la mystique juive, raconte, c'est quoi les déchets, ce que je suis en train d'expliquer maintenant, les échecs de l'humanité, c'est nécessaire pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, le pourquoi de la Torah, de comprendre les antécédents. Sans comprendre les antécédents, c'est pas pourquoi on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Ouh là 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 là. Il y a une partie que j'ignore de la mystique juive, qui est la partie la plus dangereuse, la plus profonde à étudier, qu'on étudie, que les grands kabbalistes, qui sont les plus purs, etc., l'étudient que Shabbat la nuit après minuit. C'est celle des mondes antécédents ce monde-ci, qui sont montrés en signe dans la Torah, dans les 12 rois descendants de Esav. Alouf, Alouf Omar, Alouf Teman, Alouf machin, tout ça Alouf Imna, Magdiel, le dernier, voilà, tout cela, c'est là, ça c'est les... C'est un truc qui est connu que c'est inconnu, d'accord? C'est un truc que tout le monde sait, c'est le secret qui est dans ces 12 rois. ברוך אדוני אלוהים אמן ואמן.